Aujourd'hui, je ne vais pas me demander de quoi je vais parler, parce que je sais de quoi je vais parler. Tout simplement, je vais vous raconter l'histoire cette nuit. Cette nuit, évidemment, j'ai dormi. J'ai dormi, j'ai bien dormi, jusqu'à 1h du matin. Au bout de coucher à 11h, je me réveille à 1h du matin et j'avais une envie pressante de faire pipi. Donc, je me lève, chancelant, parce que en plein sommeil, c'est un peu dur, je veux faire pipi. Donc, c'est-à-dire, quand je me lève, juste devant moi, sur l'étagère, sur la commode, en fait, il y a un réveil. Le réveil indiquait 1h du matin. 1h du matin. Pile 1h du matin. Lorsque je me réveille, je sens, ah, le lit est encore froid de l'autre côté. Donc, ça veut dire que ça n'était pas encore couché. Ça n'était pas là. Donc, je pouvais étendre le bras, il n'y avait personne. Donc, moi, je me suis couché avec son. Avant-centre. Donc, je vais aux toilettes, à 1h du matin, je fais pipi. C'est pas très intéressant, c'est pas très intéressant de cette manière-là, mais quand même, parce que j'ai fini de faire pipi, je suis retourné au lit, sans, était au lit, et moi, quand je me suis recouché, il était 4h20 du matin. Pas de problème. Je n'ai pas fait pipi pendant 3h20 minutes. Pourtant, j'ai juste fait pipi. Quand je me suis recouché, je répète, il était 4h20 du matin. 4h20. Et Sand était dans le lit. Pourtant, je ne l'ai pas remarqué quand elle s'est couchée. Et elle, quand elle s'est couchée, elle m'a pas remarqué que elle n'avait pas remarqué que j'étais aux toilettes. Parce que j'étais aux toilettes avant qu'elle arrive. Mais elle est arrivée après que je sois revenu aux toilettes. Mais quand moi je suis revenu aux toilettes, elle était dans le lit. Ça veut dire qu'en fait, il s'est passé quelque chose. Qui a fait que il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est évident de comprendre. En fait, j'avais déjà dit l'autre jour, nous sommes en train de vivre des informations très très profondes en nous, des informations et en fait des déprogrammations cellulaires. L'humanité est en train de vivre en fait ce qu'on appelle la souffrance. Lorsque nous brûlons de l'intérieur. En fait, hier soir, je suis tombé sur une petite vidéo sur Facebook où quelqu'un, peut-être ou non, en fait, quelqu'un qui raconte un petit peu les avancées de la science actuellement. Donc, je me suis intéressé à ça. Donc, la science explique que la science commence à comprendre qu'est-ce qui se passe au fin fond de l'atome. Donc, pour comprendre de quoi je veux parler, il faut juste, je reprends par le début, j'ai pris des notes, hein, parce que sinon j'oublie trop. En fait, qu'est-ce qui se passe au fin fond de l'atome? Parce que la science commence à explorer les fins fonds de l'atome. Au fin fond de l'atome, on va pas faire toutes les strates, mais en fait, on va commencer par la strate du microscopique, hein. Microscopique, ça veut dire que l'état des microbes, les bactéries, les microbes. Donc, ça veut dire au milieu cellulaire de l'humain, infiniment petit, et encore plus loin. Hein. Au niveau macroscopique, on appelle ça les cellules. Dans ce niveau macroscopique, il y a aussi les acariens, les tardigrades, les bébêtes un peu moches. Hein. Donc, à un niveau encore plus profond, nous avons les bactéries, les cellules. C'est au niveau du micromètre hein, que ça se passe, les bactéries, les cellules. On va encore plus loin, on arrive dans le monde des virus, les nanomètres. Encore plus loin, on arrive au monde de l'atome. L'atome, c'est-à-dire que ça s'appelle le monde quantique. Pourquoi ça s'appelle le monde quantique? Parce que c'est au niveau de l'atome qu'il n'y a plus quelque chose. Le monde quantique, la science a remarqué que quand on pénètre dans ces mondes-là, ils arrivent à pénétrer dans ces mondes-là avec une microscope électronique, lorsqu'ils pénètrent dans ces mondes-là, ils ont vu quelque chose de spécifique qui est bizarre. Ça veut dire, en fait, donc sur cette vidéo hier soir, il y a un gars qui explique que au niveau quantique, nanométrique, en fait, à ce niveau-là, de l'atome, on sait très bien que nous sommes composés d'atomes. Notre environnement est composé d'atomes. Les arbres, ce sont des atomes. Tout ce qui nous entoure, ce sont des atomes. Donc, si on va à ce niveau-là, au niveau atomique, les atomes, qu'est-ce qui se passe dans les atomes? Il y a des électrons et des neutrons, en fait, qui tournent autour des atomes à une vitesse folle, quoi. En fait, ils tournent autour des atomes dans un espace très immense. Si on prend une balle, une petite balle de ping-pong, ou, voilà. Et en fait, ça veut dire qu'une petite balle de ping-pong, à l'échelle, ce serait à plusieurs kilomètres entre la balle de ping-pong et ce kilomètre. En fait, cet espace est énorme par rapport à la balle de ping-pong. En fait, cet espace existe quand même. Même si on peut pas le voir, mais il existe quand même. En fait, ils ont calculé, la science, les scientifiques ont fait calculer cet espace. Donc, ça veut dire que, au niveau nanométrique, on sait très bien maintenant que que ces atomes, en fait, sont constitués de protons, neutrons, etc., les protons et les neutrons. Mais au niveau des protons, on va prendre les protons. Au niveau des protons, est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Effectivement, on peut aller plus loin, mais ça devient de plus en plus théorique. Parce qu'en fait, plus loin, il y a ce qu'on appelle, ce que la science appelle les quarks. Les quarks, c'est une théorie. En fait, ils ne peuvent plus voir les quarks au microscope électronique, mais ils peuvent avoir une théorie sur les quarks. Et en fait, en réalité, ils ont remarqué que les quarks existent parce que la théorie sur les quarks fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des quarks? Ben, ça s'appelle le niveau quantique. Au niveau quantique, c'est-à-dire au niveau de ces quarks, si on va encore plus loin que les quarks, ils savent que plus loin que les quarks, il n'y a plus rien. Ça veut dire ça ne sert à rien de vouloir aller plus loin que les quarks, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Même au niveau mathématique, on ne peut pas aller plus loin. Mais ce n'est pas vrai. On peut aller plus loin qu'au niveau des quarks. Au niveau quantique, ça veut dire tout s'intrigue. Il y a une intrication quantique, comme on dit, hein, une intrication entre tous ces mondes. Lorsqu'on va plus loin que les quarks, ben c'est encore une théorie. Mais on va trouver quelque chose de l'autre côté des quarks. Les quarks sont les plus petites particules au niveau des protons qu'on peut conscientiser. En fait, qu'on connaît, que la science connaît, que la science a réussi à calculer. Et la science, c'est la science de, comment s'appelle le gars, Max Planck, d'où il a échafaudé sa théorie de la théorie de Planck et compagnie. C'est Planck qui a arrêté son calcul à ce niveau. Parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Donc maintenant, on peut quand même comprendre quelque chose. On va s'arrêter à la limite de Planck, à ce mur de Planck, qui est un espace. Le mur de Planck, en réalité, c'est un espace. Ils ne sont pas arrivés à aller au-delà de cet espace du mur de Planck. Mais pour comprendre ce qu'il y a au-delà de cet espace du mur de Planck, il faut juste regarder la nature. Dans la nature, on va prendre une pomme ou une banane, n'importe quoi. Une pomme, un fruit quelconque. Donc, dans la vidéo, j'ai vu, il prenait une banane. En fait, lorsqu'un arbre est planté, donc, il n'y a jamais de début et de fin dans la conscience de l'arbre. Parce que la conscience, l'esprit de l'arbre existe de façon éternelle. Pourquoi? Parce que quand on plante la graine d'un arbre, bah, ça devient un arbre. Ça devient, et enfin, un arbre qui porte des fruits. Il va donner des fruits mûrs au moment où les fruits sont au meilleur stade de leur reproduction, c'est quand ils sont mûrs. Un fruit qui n'est pas mûr, ça ne sert à rien de planter, il ne va pas pousser. Mais un fruit qui est mûr, on peut planter les graines. Mais un fruit qui pourrit, ça ne sert à rien de planter les graines parce qu'il pourrit, parce que c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il y a quand même une question de maturité entre pour planter les graines d'un arbre, n'importe. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, si je prends la banane ou une pomme, lorsqu'elle tombe de l'arbre, ben en fait, elle commence, elle est mûre, ça veut dire qu'elle est mûre, mais elle commence à pourrir. Lorsqu'elle commence à pourrir, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on regarde au microscope, une banane mûre, une pomme mûre, la composition de la pomme ou de la banane mûre, si on regarde au microscope, ce sont aussi au niveau atomique, rien ne change. Tout reste identique au niveau atomique. Une banane mûre et une banane pourrie possèdent les mêmes atomes. Quand on regarde l'atome d'une banane pourrie, au microscope, une banane mûre, c'est la même chose. Sauf que si on regarde cet atome de manière unique, c'est-à-dire un seul atome, on voit bien que rien ne bouge. En fait, l'atome, c'est le même. Mais maintenant, si on prend cette banane dans sa globalité, et si on arrive à voir la globalité des atomes, il veut dire qu'il y a quelque chose qui change. Si on voit tous les atomes, si on voit tous les atomes d'une banane en même temps, on les voit tous pourrir ensemble. Pourtant, individuellement, ce sont toujours les mêmes atomes. Donc, une banane qui pourrit, elle est soumise à une loi qui est de ce monde, qui existe dans notre monde, mais qui, au niveau nano-macroscopique, en fait, très, très petit, plutôt microscopique, nano-microscopique, cette loi n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est cette loi qui fait que la banane pourrit dans notre monde, mais en réalité, au niveau très, très nanoscopique, comme on dit, l'atome reste le même. C'est une question, parce que c'est une bonne question. C'est ce que la science a déjà découvert, en fait. En fait, déjà, c'est ces choses-là. La science actuelle ne le révèle pas à l'humanité. Et c'est encore déjà quelque chose qui est... Ces découvertes de la science, elles sont restreintes au niveau du corpus scientifique. Ils ne l'ont pas exprimé, ils n'ont pas donné cette information à tout le monde. Hein. Je reprends mon petit papier. Donc, en fait, ça veut dire que cette banane qui pourrit est pourrie à quelque chose. À cause de quelque chose, pardon. Et c'est pourri, c'est qu'il y a quelque chose qui entre en action, qui fait ce pourrissement. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est pas compliqué à comprendre. J'ai dit tout à l'heure, un arbre, c'est un être de conscience. C'est un être qui possède un esprit, c'est l'esprit de l'arbre qui l'habite. Quand l'esprit de l'arbre sort de l'arbre, qu'est-ce qu'il fait l'arbre? En fait, s'il est prêt à sortir, ça veut dire que l'arbre meurt. L'esprit de l'arbre sort quand il meurt. Et quand l'esprit de l'arbre sort de l'arbre, il va dans un autre arbre. Généralement, un arbre qui meurt, il laisse des graines. Et lorsque les graines sont plantées, un nouvel arbre grandit. Donc, ce cycle de vie. L'arbre meurt, la graine grandit. Mais pour que la graine puisse grandir, il faut qu'il y ait une certaine maturité du fruit. C'est exactement la même chose pour l'humain. L'humain, lorsque nous sommes nés, lorsque je suis né, je suis né enfant, bébé, donc une petite graine. Vous comprenez le principe, la petite graine, vous comprenez? La petite graine, et en fait, elle grandit jusqu'à un certain âge où j'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants, donc vous connaissez ça maintenant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai eu deux enfants? Parce que nous étions en couple. Il y avait deux personnes. Donc, il y avait mon ex et moi-même. Et maintenant qu'on arrive à la fin de cycle, c'est le temps pour l'esprit de faire le bilan de cette incarnation. Le bilan de cette incarnation, ça veut dire que, en réalité, l'humanité, elle va passer dans une autre densité. Donc, je répète, c'est pas une dimension, c'est une densité. Et l'humanité passe dans une autre densité grâce à quoi? Grâce à la conscience. En fait, si on comprend ça, il faut faire les liens entre les choses, entre ce qui se passe dans l'univers. Ça veut dire qu'en fait, il se passe rien de neuf sous le soleil, comme on dit, lorsqu'on observe l'infiniment petit. Ok, l'infiniment petit, ça veut dire que notre corps, c'est comme une banane. Lorsque notre corps est trop vieux, c'est comme la banane, le corps pourrit. Mais pendant notre croissance, on va dire, en fait, quand on est jeune, quand on est bébé, nous, en tant qu'humains, nous croyons que le bébé n'a pas de conscience et il apprend de quelque chose. En réalité, le bébé a beaucoup plus de conscience mais qu'un adulte. Parce que le bébé perd sa conscience durant sa croissance, mais lorsqu'il perd sa conscience, il développe son intellect. D'un côté, ça baisse, et de l'autre côté, il développe l'intellect. Donc, ça veut dire que l'intellect, ce n'est pas l'intelligence de l'esprit. L'intellect, c'est l'intelligence, si on peut dire intelligence, de l'ego. L'intellect concerne l'ego. L'intellect concerne l'ego. Ce qui fait que plus on grandit en humain, plus on développe un ego. Et plus, donc les enfants aussi, eux, ils apprennent à développer l'ego. L'ego, c'est en fait, c'est on pourrait presque dire, l'alter ego, c'est notre double. Ouais. Donc, si c'est notre double, c'est l'ego qui se développe par l'intellect de l'esprit. Par l'intellect de l'esprit. Parce que l'intellect de l'esprit admet que notre ego grandit parce qu'il reçoit l'information, parce qu'il reçoit des informations. L'ego qui ne reçoit pas d'informations, ben, il dépérit. Et lorsqu'il dépérit, ben, il meurt. Donc, l'ego qui reçoit de l'information pendant sa vie, pendant toute sa vie, lorsqu'il est informé en permanence, qu'est-ce qu'il fait l'ego qui reçoit en permanence de l'information? Ben, il reçoit de l'énergie. C'est-à-dire, l'individu reçoit de l'énergie. Moi, je ressens de l'énergie dans ma vie. Si on me supprime cette énergie, ben, mon corps meurt, mais pas mon esprit. Mon corps meurt, pas mon esprit. C'est important de comprendre ce principe. C'est l'esprit qui est éternel en réalité. C'est l'esprit qui ne meurt jamais. Et pourquoi l'esprit ne meurt jamais? Parce que l'esprit n'a pas besoin de mourir pour se perpétuer. C'est pour ça que l'esprit, il peut s'incarner dans n'importe quel monde, sous n'importe quelle forme, dans n'importe quel corps. C'est pour ça que je disais la dernière fois que l'esprit s'incarne dans les arbres, s'incarne dans la silice, s'incarne en fait dans les matériaux, n'importe où. Il peut s'incarner dans tout ce qui est matériel. L'esprit s'incarne dans tout ce qui est matériel. Donc si l'esprit s'incarne dans tout ce qui est matériel, ça veut dire que si on regarde le matériel en réalité, ben il y a deux choses qui composent la matière. C'est la matière elle-même et l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est le vide qu'il y a entre les quarks, entre les atomes, Entre les atomes, il y a de l'esprit. Parce qu'en fait, la science voit qu'entre les atomes, il y a un nuage d'électrons qui tourne. Et qu'est-ce qui fait tourner ces électrons? C'est l'esprit, c'est l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, c'est l'esprit. Et cette intelligence de la vie, qu'est-ce que c'est? Ben, d'où est-ce que vient cette intelligence de la vie? C'est par la progression. La progression, c'est-à-dire que on grandit à travers l'esprit. Mais ça veut dire quoi? Grandir à travers l'esprit. Ça veut dire que on est, l'esprit s'incarne. Toute notre vie, on grandit, on cherche à retrouver, à reconnecter à notre esprit. Si on reconnecte à notre esprit, aussi longtemps qu'on est reconnecté à notre esprit, on continue à vivre. Mais aussi, il faut bien comprendre que aussi longtemps qu'on reconnecte à notre esprit, c'est que au moment où on reconnecte à notre esprit, on nourrit l'esprit aussi. Mais c'est le corps qui nourrit l'esprit. Aussi longtemps que le corps est actif à nourrir l'esprit, bah, la vie continue. Effectivement, en troisième densité, dans notre monde actuel, des gens arrivent à un moment donné, ils arrêtent de chercher des réponses à quoi que ça. En fait, c'est important de comprendre qu'il ne faut jamais arrêter de chercher les réponses. Mais arrêter de chercher les réponses, ça veut dire réfléchir. Mais on ne peut pas avoir des réponses si on ne réfléchit pas. Parce que pour changer de monde, comme je l'ai souvent dit, il faut arrêter de penser. Comment faire pour arrêter de penser? Pour avoir des réponses. On sait très bien, maintenant je viens de dire, que l'esprit, donc, j'ai dit la dernière fois, l'esprit, il a toutes les réponses à nos questions. Mais, si on n'y croit pas, on passe notre temps à vouloir chercher des réponses pour comprendre comment l'esprit peut proposer des réponses. Parce que si l'esprit propose des réponses, ben, il propose des réponses à nous-mêmes qui cherchons. Cherchons. En fait, des fois, l'esprit propose des réponses. Mais si on arrête, Si on arrête de chercher, l'esprit arrête de nous donner des réponses. Mais c'est quand même difficile de comprendre comment on doit arrêter de penser pour trouver des réponses. Parce que c'est logique, si on comprend un petit peu la physique quantique à ce niveau-là, c'est un peu logique qu'on arrête de penser. Parce que arrêter de penser, ça veut dire arrêter de fonctionner dans l'ancien monde, comme dans l'ancien monde. Donc, je reprends encore une fois l'histoire de la banane. La banane qui pourrit, elle change pas de densité, elle reste dans sa densité. Si elle était intelligente, on pourrait dire à cette banane, renverse le processus du vieux et redevient plus jeune. Elle redeviendrait plus jeune. Donc, ça veut dire qu'elle inverse juste le spin de sa réalité. Le spin quantique, ça veut dire qu'en fait, le sens du, on appelle ça, quand les atomes contournent, donc ça, le sens de, je sais pas comment dire, de la direction quantique de l'atome, la direction. En fait, cette direction, elle est due au sens de rotation des électrons autour du noyau. Donc, s'il y a un sens de rotation autour du noyau, ça veut bien dire que le monde qu'on connaît actuellement, la troisième densité, elle est finie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se finit à la fin de la vie en troisième densité. Mais qui peut reprendre dans une nouvelle réalité. Ça veut dire qu'une nouvelle densité, ça veut dire que dans un nouveau monde dans lequel nous allons être transplantés, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi nous allons être transplantés. Lorsque nous sommes transplantés dans ce nouveau monde, c'est là que nous continuerons de permettre à l'esprit de continuer à s'aventurer dans ce monde, ou en fait de récolter les expériences dans ce nouveau monde. En fait, c'est comme ça qu'on arrive. On va faire grandir notre esprit. Si nous sommes actuellement à fin de cycle, il faut bien comprendre pourquoi. Comment je peux expliquer ça maintenant? En fait, pourquoi la banane en réalité, la banane pourrie? Parce que c'est lié au temps. La banane pourrie, parce que l'observateur qui observe la banane pourrir, il croit au temps. Donc la banane, lorsqu'elle est pourrie, on la voit pourrir jusqu'à ce qu'elle meure. Mais la banane ne peut pas reprendre le processus, elle peut pas aller dans l'autre sens. Puisque dans notre monde actuel, la banane est obligée de mourir. Comme les corps humains, nous croyons qu'ils sont obligés de mourir. Mais si on change le sens de la vie, la banane pourrait très bien continuer à recommencer une nouvelle vie sans passer d'un arbre à l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que vous connaissez l'histoire de... Comment s'appelle cette histoire de l'Edridge. L'Edridge, c'est un navire américain que pendant la dernière guerre, en 1947 ou 1940, je ne sais plus exactement, ils ont fait une expérience de mettre des bobines Tesla. Donc, des bobines Tesla, ce sont des bobines, des grosses bobines, des bobines électromagnétiques, en fait, sur un bateau. Vous lirez l'histoire, ça, je ne vais pas raconter plus longtemps. Ces bobines Tesla, en fait, quand ils ont activé le courant électrique dans ces bobines Tesla, ça a créé un énorme champ magnétique qui a fait quoi? Qui a fait disparaître le bateau. Et en fait, lorsque les marins qui étaient à bord du bateau, quand ils ont compris que quelque chose n'allait pas, ils ont essayé de sauter à l'eau. Mais lorsqu'ils ont sauté à l'eau, certains d'entre eux sont restés coincés dans la matière du bateau, c'est-à-dire dans le métal du bateau. C'était un bateau de guerre, donc c'était métallique, hein, c'était de la grosse ferraille. Il y a des gens qui sont restés coincés dans la ferraille. Ils sont morts, évidemment. Hein, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi les marins qui ont sauté à ce moment-là dans l'eau sont restés coincés dans la ferraille? D'autres, en réalité, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils s'en sont sortis 40 ans après. 40 ans après, c'est-à-dire que certains marins, certaines personnes qui étaient à bord de l'Edridge, je ne sais plus quelle année, donc disons, je crois que c'était en 43, parce que 2023, c'était un cycle fini par rapport à l'Edridge. Ou en 24, En fait, à peu près. Ça veut dire que 40 ans après, les marins, à l'époque, ils ont sauté de l'Enbridge, ils se sont retrouvés 40 ans, en 1983. Ils se sont retrouvés en 1983, à une base aux États-Unis, je sais plus où. Ils se retrouvent là-bas. En fait, quand ils ont remarqué que quand ils sont arrivés en 1943, les supérieurs qui avaient vieilli, les colonels qui avaient vieilli, les supérieurs de ces soldats qui avaient vieilli, les attendaient en 1983, là-bas. Je me rappelle du port, comment ça s'appelle. En fait, les supérieurs ont dit, ça va pas, on est en train de faire une commune. Donc, ils ont redit, certains d'entre vous, vous allez retourner dans le passé et arrêter l'expérience. Donc, ils ont renvoyé quelques marins, donc, dont comment s'appelle l'autre, Bielek. En fait, ils n'ont pas renvoyé Bielek. Bielek, c'est une histoire. C'est une histoire pour cacher l'histoire dans l'histoire. Donc, ils ont renvoyé des marins, retour dans le passé, pour désactiver l'expérience. Donc, ça veut dire pour désactiver le courant qui alimentait les bobines. Donc, ce qu'ils ont arrivé dans le passé, ils ont essayé de le faire. Donc, ils l'ont fait. Mais il y avait quand même des personnages qui étaient déjà dans le futur et des personnages qui se retournaient dans le passé. Donc, il y a eu un saut dans le temps dans les deux sens. Donc, ça veut dire que l'humain serait capable de faire des sauts dans le temps. Et qu'est-ce qui change lorsque l'humain est capable de faire le saut dans le temps? Des marins qui ont sauté du futur vers le passé, ils sont revenus en tant que bébé. En tant que bébé, ça veut dire qu'ils n'avaient plus la conscience de l'événement. Et lorsqu'ils sont revenus en tant que bébé, ils sont nés une deuxième fois dans une famille. Et en fait, certains d'entre eux avaient oublié l'expérience, d'autres avaient des petites notions d'expérience. Ils savaient qu'il s'est passé quelque chose, ils n'arrivaient pas à suivre. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Ok. Je m'arrête là pour ces expériences. Vous pourriez aussi dire sur Internet l'expérience de l'Enbridge, je ne sais plus en quelle année, ou chercher. Si vous cherchez, en fait, c'est important de chercher soi-même parce que vous allez comprendre que ce n'est pas parce que je vous le raconte, mais c'est vrai. Il faut juste chercher vous-même. Je veux revenir à l'histoire de la banane qui pourrit. Qu'est-ce qui fait que la banane pourrit? C'est une histoire de modification de l'atome dans le temps. Mais comme on sait que au niveau nanométrique, le temps n'a plus d'incidence. Au niveau nanométrique, le temps n'a plus d'incidence sur le vieillissement. Pourtant, la banane vieillit quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est parce qu'on observe l'ensemble des atomes qu'on voit que la banane vieillit. Qu'est-ce qui fait que si on observe un atome, un espace, mais si on observe tous les atomes en même temps, il se passe quelque chose. En réalité, si on observe un atome, l'atome, il y a des électrons qui bougent. C'est ce qui fait, par exemple, que un atome à lui tout seul n'est pas soumis au temps. Mais notre corps, il est, il n'y a que des atomes dans notre corps. Et notre atome, si on sait très bien qu'entre les atomes, il y a du vide, il n'y aurait pas de raison qu'on ne puisse pas traverser les murs. Si moi je tape dans mon mur, ça fait mal. Si je tape fort, je peux pas traverser les murs. Même un marteau piqueur a beaucoup de mal à traverser les murs. Et il va pas traverser les murs sans faire des, il va faire beaucoup de dégâts. Mais il y a un moyen de traverser les murs sans faire aucun dégât. L'humain sera capable dans le futur de traverser les murs sans aucun dégât. Pourquoi? Parce que il va changer de conscience. En réalité, ça veut dire quoi, changer de conscience? Ça veut dire qu'il va arriver dans un monde qu'il connaît déjà, mais qu'il est en train de construire. Il connaît déjà parce que une partie de lui connaît ce monde puisqu'il l'a déjà construit, et une partie de lui va connaître ce monde parce qu'il sait qu'il est en train de construire. En fait, ça m'a compris quoi? Ça m'a permis de comprendre quoi? Que dans le futur, dans ce futur-là qu'on va y aller, en fait, ça compte, c'est la suite de l'atome. Ou plutôt du quark. Le futur, c'est, sur le plan individuel, si Il faut bien comprendre que lorsqu'on observe un quark, on l'observe avec les yeux. On observe un quark avec les yeux, donc on ne voit pas plus loin que le quark en lui-même. Et qu'est-ce qui peut voir plus loin que le quark lui-même? Vous savez, sur la caméra qui me filme, il y a un objectif, mais des fois il y a des objectifs doubles, des fois des objectifs triples sur certaines caméras. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les objectifs triples, ce sont ceux qui vont le plus loin. Et les objectifs triples, ça veut dire quoi? Trois. Ça veut dire qu'ils ont un meilleur moyen de focaliser. Maintenant, si je prends l'histoire des yeux du 2, ben, ils peuvent pas focaliser au-delà de ce qui existe. Donc, ils peuvent pas focaliser au-delà du quark. Mais le troisième œil, il sait focaliser au-delà du quark. C'est quoi le troisième œil? Hein? C'est pas le troisième œil de l'objectif de l'appareil photo ou de la caméra. C'est tout simplement notre troisième œil qui, soi-disant, est si c'est un chakrajna ou comment on dit, ce troisième œil permet d'aller plus loin, plus profondément que le quark. Donc si avec troisième œil, ça veut dire le troisième œil nous montre l'image du futur. Si vous passez dans ce monde de vide, on arrive toujours dans un monde de vide. Mais ce monde de vide n'est plus le même. Parce qu'à la fin de notre vie, on arrive dans un monde de vide, parce qu'on quitte le corps, mais l'esprit continue. Donc l'esprit, il est où? Il est universel, il est omnipotent, il est partout. Et en réalité, le quark, qu'est-ce que c'est? Le quark, c'est le début du canal, comment on appelle ça, du terrier du lapin, d'Alice, comme dit l'histoire, c'est des histoires. En fait, c'est le début du terrier du lapin dans lequel on s'engouffre pour arriver de l'autre côté. Donc, les physiciens comprennent pas comment, la physique quantique ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, qu'est-ce qu'il y a au-delà du quark. Effectivement, dans l'univers, au-delà du quark, en réalité, il n'y a pas de quark, mais il y a quand même un quark qu'on appelle un trou noir. Les trous noirs, ce sont tout simplement les quarks. Quand on pénètre dans le trou noir, on découvre des trous noirs encore, je sais pas où, là. Il y a beaucoup de trous noirs qu'on découvre de plus en plus. Ben, au-delà du trou noir, il y en a qui disent qu'il y a des trous blancs. Ok, on s'en fout de la couleur du trou. Tout simplement, le trou noir, c'est un endroit qui absorbe toute la matière et l'intelligence de l'univers. Il n'y a pas seulement la matière, mais l'intelligence. Parce que la matière, en réalité, elle est constituée quasiment que de vide. Il y a juste une petite quelque chose qui n'est pas du vide. En fait, qu'est-ce que c'est, ce petit quelque chose? Ce sont, je prends des protons, par exemple. Les protons ont des charges. Ces protons, en fait, je vais les prendre autrement, les électrons. Les électrons, oui, ou les protons qui tournent autour d'un noyau, maintenant on a compris que les électrons ou les protons ne peuvent pas être au même endroit en même temps. Un proton qui se rencontre, il ne peut pas se rencontrer. Si on le force à se rencontrer, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une explosion nucléaire. Lorsque les gens font, la science fait des essais de collision, on s'appelle un étranger du collisionneur de Genève ou je sais pas où, là, le collisionneur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent les protons à se collisionner, à faire, boum, et ça explose. C'est le principe de la fission nucléaire. La fission, justement. Ça, c'est deux molécules. Si ces deux protons se rencontrent, ça fait une explosion nucléaire. Parce qu'on force les protons à se rencontrer. Dans la nature, les protons ne se rencontrent jamais. C'est pour ça que, en fait, l'avenir de l'énergie humaine, de l'énergie sur Terre, c'est la fusion. Les protons, on va pas les forcer à se rencontrer. On va les laisser se rencontrer, se mélanger. Donc, ça veut dire, on va faire une danse. En fait, plus les protons se mélangent, donc les atomes se mélangent, on va pas chercher dans les détails, plus les atomes se mélangent, ben, ça crée une nouvelle réalité. Mais c'est les forces à se collisionner, ça crée la destruction. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce stade à tous les niveaux. Nous sommes arrivés à ce stade au niveau personnel, au niveau scientifique, au niveau de la Terre sur Terre, n'importe quoi, à tous les niveaux, ce principe s'applique. Le principe s'applique parce que, en fait, ça m'a permis de comprendre quelque chose. Donc, je reprends la question. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté d'un quark? Ben, si on réfléchit un petit peu, c'est tout simplement l'univers. L'univers tel qu'on le connaît, tel qu'on l'imagine. Parce que nous imaginons l'univers de la même manière que nous imaginons le fin fond d'un quark. En fait, on ne peut pas aller plus loin que le quark. Et l'univers aussi, nous croyons que nous ne pouvons pas aller plus loin. Parce que si nous allons plus loin que l'univers, ben, effectivement, on peut aller très loin dans les galaxies. On peut même savoir qu'il y a des soleils au milieu des galaxies, au centre des soleils qui alimentent des galaxies. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin que ces galaxies. Parce que ces galaxies sont des mondes. Mais en réalité, tout simplement, ces galaxies, ce sont des mondes de conscience collective. Alors, qu'un quark, c'est un monde de conscience individuelle. Quark, c'est la plus petite partie de la matière qu'on peut regarder individuellement. Si on le regardait collectivement, ça serait un univers. Si on le regardait collectivement, ça veut dire qu'il y a des yeux qui l'observent, des yeux, des consciences qui l'observent. Donc en réalité, ça veut dire quoi? La conscience individuelle, c'est un quark, donc c'est un trou noir. De l'autre côté du trou noir, en fait, la conscience individuelle elle est absorbée par un trou noir. Si cette conscience n'accepte pas de progresser, si elle ne fait pas le progrès, si elle n'évolue pas. Il y a beaucoup de gens sur Terre maintenant qui ne cherchent pas à évoluer, qui préfèrent rester dans leur confort. En plus, au niveau du gouvernement, il y a des gens qui essayent, qui font en sorte que l'humain ne puisse pas s'éveiller. Je le dis toujours, hein, l'humain ne peut pas s'éveiller dans les conditions actuelles. Il est trop pris trop pogné par ce qui se passe sur Terre actuellement. Il cherche pas à comprendre pourquoi il y a des guerres sur Terre, pourquoi ça arrive. Effectivement, avec des guerres sur Terre, c'est quoi? C'est comme si on secouait un pommier, on banane et les bananes tombent. En fait, les bananes qui tombent lorsqu'elles ne sont pas mûres, ben, elles peuvent pas se reproduire. Ou les bananes qui pourrissent à sol, elles peuvent plus se reproduire. Parce qu'il faut un moment précis pour que cette banane puisse se reproduire. Pour comprendre ça, en fait, je l'ai compris cette nuit, parce que je suis de temps en temps Jean-Pierre Petit, et il était très proche de comprendre ce qui se passe plus loin que le quark. Il avait compris à peu près, mais je ne sais pas s'il a compris qu'en réalité, le quark, c'est juste l'envers de l'univers. Donc Jean-Pierre Petit, puisqu'il était très proche de découvrir la vérité, ils l'ont évincé du CNRS. C'est pour ça que maintenant, il est autonome, il raconte une histoire, comme moi. Et moi, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas été évincé du CNRS. Je n'étais pas assez intelligent pour arriver au CNRS, pour travailler au CNRS. Et heureusement. C'est pas l'intelligence. C'est pas l'intellect humain qui permet à l'esprit le progrès, qui permet d'amener l'esprit vers le progrès. C'est une intelligence égotique qui permet au corps humain de progresser. Ça ne l'empêche pas de mourir à la fin de sa vie. Donc Jean-Pierre Petit, et je ne sais pas quel âge qu'il a, mais voilà, il va arriver à la fin de sa vie. Il ne sait pas encore qu'il y a, parce qu'il n'a pas compris que à la fin de sa vie, il y a autre chose. Et s'il ne l'a pas compris, ça veut dire qu'il faut qu'il expérimente. Ça veut dire quoi, s'il expérimente? Ça veut dire que il a beau comprendre la théorie de la gravitation, des la mur de Planck, tout ça, et s'il s'arrête à ses découvertes à lui, s'il ne va pas plus loin dans l'intuition et qu'il n'exprime pas ce qu'il a découvert, parce qu'il a découvert d'autres choses, mais on ne sait pas. Parce qu'en réalité, il a peut-être peur de le dire, ou je ne sais pas. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas aller plus loin, parce qu'ils sont souvent payés pour ne pas aller plus loin. Moi, je ne suis pas payé pour aller plus loin. Justement, je ne suis pas payé Parce que c'est pas que je pleure, hein, on m'a enlevé tous mes revenus. Je suis actuellement avec rien. Parce que j'ai compris quelque chose. J'avais dit précédemment que je préfère avoir l'esprit que d'avoir de l'argent. C'est logique. Donc, je vivrai sur cette terre aussi longtemps que j'ai d'argent. Mais après, c'est pas moi qui vais mourir, c'est la terre qui va mourir. C'est pas moi qui vais mourir, c'est la terre qui va mourir. Parce qu'on va changer de densité. C'est con, hein. Ça veut dire que si Jean-Pierre Petit avait compris ça, bah, effectivement, il a compris beaucoup de choses. Il a, comment dire, modélisé le fameux ruban de Möbius. Il a modélisé en polystyrène, en matière, je sais pas trop ce que c'est. Et pourquoi il a pu le modéliser? Parce qu'il y avait une machine 3D imprimée. Une machine à imprimer 3D, comme on dit. Moi, j'ai essayé de le faire. Avec du papier. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, j'ai essayé de faire plusieurs trucs avec du papier. Mais en réalité, j'aurais pu le modéliser avec un papier triangle. Mais on n'arrive pas à le plier parce que pour faire un ruban de Möbius, à plat, ça fonctionne. Et si je prends, ça c'est un ruban de Möbius que j'ai fabriqué ce matin juste pour l'explication. Ruban de Möbius, ça veut dire que il y a un intérieur et un extérieur. Apparemment, en réalité, si je prends mon doigt, je suis toujours la même couche. À un moment donné, cette couche se retrouve à l'intérieur du ruban de Möbius. Donc, du Möbius, pardon. Donc là, à un moment donné, il ressort du ruban de Möbius, puis il se trouve de nouveau à l'extérieur. Là, je suis de nouveau à l'extérieur du ruban de Möbius. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers fonctionne de cette façon-là. Mais en fait, pour un papier, pour de la matière, donc je prends ça juste comme matière, ou les petits triangles, là, que j'avais essayé, je suis pas arrivé. Les petits triangles, c'est la même chose. Ça représente de la matière. Donc Jean-Pierre Petit, il a découvert comment créer un ruban de Möbius en papier en trouvant le moyen de le tourner. Mais pour le tourner, il faut que le milieu du ruban, donc j'en ai fait un comme ça, le milieu du ruban soit deux fois plus long. Le milieu du ruban qui est deux fois plus long permet aux deux autres rubans de passer autour. Mais là, je l'ai pas pu faire, c'est trop petit, hein. Il faudrait des grands morceaux de papier. Donc là, j'ai utilisé un maître de couture. Qui est d'un côté, c'est intéressant de voir, qui est d'un côté jaune, et de l'autre côté, il est, je vais mettre un peu en arrière, il est vert et rouge. Donc, si on met le jaune sur le jaune, ben, on obtient un ruban jaune, voilà, toujours de la même côté, là, je vais me tromper de côté, on obtient un ruban jaune, vous pouvez le faire à la maison, mais vous pouvez aussi séparer les deux couleurs et inverser les couleurs. C'est-à-dire qu'on peut mettre le jaune sur le vert. Ceci, pourquoi? Parce que le ruban est assez long. S'il était court, on pourrait pas le faire. S'il était comme ça, je pourrais pas le faire. Il serait tordu, il serait cassé, il se casserait. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même quelque chose. Et qu'est-ce qui fait que ce ruban, en fait, ce ruban, il représenterait quoi? Il représentait le temps. Il représente le temps. Il représente le temps. Plus le temps est long, plus c'est facile de tordre le ruban. Donc, si on peut même le tordre deux fois. Donc, si on tourne deux fois, on retombe le jaune sur le jaune. Si on tourne trois fois, on retombe le vert sur le jaune. Donc, ça veut dire qu'il tourne deux fois. Vous voyez, là, au bout, il tourne deux fois. La réalité, l'univers ne fonctionne, le nouveau monde, l'univers ne fonctionnera plus sur deux plans. C'est pour ça que j'ai essayé de le faire modéliser par trois plans. Mais là, ça marche pas non plus parce que c'est du papier. Et pour le faire modéliser, il faudrait qu'il soit beaucoup plus long pour que je puisse le relier comme ça, en gros. C'est-à-dire que si je pouvais le relier comme ça, il se tournerait d'un quart de tour. Mais à un moment donné, il y aura quand même un endroit où il est un petit peu cassé. Mais si on est, comment dire, si on est assez prudent, on pourrait faire un ruban de Möbius à trois côtés. En fait, c'est quoi ces trois côtés? Ou bien, regardez ce qui se passe au niveau mondial et au niveau gouvernemental, surtout en France. Là, j'ai modélisé le truc. Le plus, vous voyez, le plus, là, j'ai dessiné un plus. Et là, j'ai dessiné des moins. Mais pourquoi j'ai dessiné 4 moins? En fait, ça pourrait aussi représenter des électrons, ça pourrait représenter des électrons autour du noyau. Si on prend ça comme noyau, il y a les électrons négatifs et les électrons positifs. Vous voyez? Donc, c'est juste pour voir. S'il était assez long, s'il y avait assez d'espace pour l'étirer assez loin, on pourrait relier. Je vais couper en deux. On pourrait relier les deux rubans. On pourrait faire que le plus, il se retrouve avec le plus, il devrait se retrouver avec le moins. Le moins, voilà, comme ça. Donc, et le plus, il serait à la même hauteur que le moins. Il deviendrait moins. Et le zéro, en fait, il ferait l'intermédiaire. Donc, c'est aussi, encore une fois, très difficile à expliquer parce que ça ne marche pas vraiment comme ça. Parce qu'il faudrait le modéliser aussi en 3D. Réfléchis si ce serait bien, si ce serait correct de le faire comme ça, je ne sais pas. En tout cas, les trois qui tournent, vous voyez les trois. Là, c'est faisable. On peut faire ça, mais regardez, on peut aussi faire ça. Tac. Ou deux fois. Déjà deux, pour moi, c'est un peu difficile, mais on peut le faire trois fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un triangle de Möbius. C'est pas un ruban de Möbius, c'est un triangle de Möbius. Pourtant, en fait, que il y a un certain temps, je crois dans les derniers cahiers, j'ai parlé de la triplicativité. J'ai parlé aussi du couple. Je disais aussi que moi, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Ben, le couple, c'est destiné à être coupé. Faut couple, le couple. Et comment peut-on couper le couple? Ben, en arrivant en trois. Ben, quoi, en général, dans ce monde, le couple, qu'est-ce qu'il fait pour s'unir, pour rester uni? Ils font des enfants. Ben, quatrième densité, ce sera plus le cas. Quatrième densité, ce sera autre chose. La triplicativité, ça pourrait être trois partenaires. En fait, mais si on regarde bien ce qui se passe déjà au niveau mondial, au niveau national, hein, le président de la République, on sait très bien que il a des préférences. Il ne l'a pas exprimé. Des préférences sexuelles. Bon, comment ça s'appelle Attali, je ne me rappelle plus de son prénom, parce que ça ne m'intéresse pas trop, mais là, j'ai vu, Attali, il a revendiqué son homosexualité. Ce n'est pas un problème que les gens revendiquent une sexualité. Il faut voir ce qu'ils nous montrent par ailleurs. Ce n'est pas intéressant de savoir ce qu'ils font. Moi, je m'en fous qu'ils soient homosexuels ou n'importe quoi. Ils peuvent être homosexuels ou hétéro ou trans ou s'en fout. Moi, je te le dis simplement, ces changements de polarité sur le plan humain, c'est tout à fait logique. Donc, je ne peux pas critiquer l'un ou l'autre. Pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, ces gens-là font leur... S'ils faisaient leur travail correctement, ce ne serait pas un problème. Mais ils sont, comme je l'ai dit l'autre jour, ils sont pilotés pour faire ce travail. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. Qui les pilote? Ce n'est pas un esprit humain qui les pilote, eux. C'est un esprit qui vient d'ailleurs. Mais qui ne vient pas de leur futur, qui vient de leur passé. En fait, ces gens-là sont pilotés par leur esprit du passé. Un esprit qui n'est pas encore mûr, en fait, qui est en train de grandir. Il va, entre guillemets, bientôt devenir une banane. Lorsque cette banane est mûre, théoriquement, elle devrait faire un fruit. Et comme ils sont homosexuels, ils ne peuvent plus faire de fruits. Ça ne marche pas trop bien. Pour ça, quand quatrième densité donne au monde, les gens n'auront plus d'enfants. À partir du moment qu'ils font eux-mêmes l'expérience de la fusion avec l'esprit. S'ils n'arrivent pas encore à quatrième densité à le faire, ce n'est pas très grave. L'essentiel pour le moment, c'est d'arriver en quatrième densité. Parce qu'en quatrième densité, il y a de nouveau des expériences. C'est toujours un cycle. Mais il y a des expériences dans un nouveau monde, dans une nouvelle réalité. C'est juste comme ça. Donc aussi, j'ai compris quelque chose. Cette nuit, quand je suis allé aux toilettes et je me suis recouché, ben, je ne pouvais plus dormir après. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que il y a des moments où je reçois des réponses sans réfléchir. C'est parce qu'en fait, cette nuit, là, tout ça, ça m'est venu parce que j'ai arrêté de réfléchir, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Puis ça arrive. J'étais aux toilettes, je me suis recouché, après, je n'ai pas dormi pendant un bout de temps, parce que ça trottait dans ma tête. C'est là que je commençais à réfléchir. Réfléchir, ça veut dire analyser pourquoi on m'a donné cette réponse. En fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'analyse pourquoi on m'a donné cette réponse cette nuit. Pourquoi on m'a montré que de l'autre côté du quark, il y a l'univers, l'infinité de l'univers. Dans l'infinité du infiniment petit du quark, de l'autre côté, il y a l'infiniment grand de l'univers. Et c'est comme ça. Les gens ne savent pas encore ça. Pourtant, il y a des gens qui savent sur Terre. Je ne suis pas le seul à le savoir. Et je ne suis probablement pas le seul à comprendre ça. Mais pour le comprendre, il fallait pas que je cherche à le comprendre. Il fallait que mon esprit me donne la réponse. Si on cherche à comprendre, l'esprit ne nous donnera jamais de réponse. Parce qu'on perd notre temps à chercher à comprendre. Et si on perd notre temps à chercher à comprendre, ben c'est l'intellect. C'est pas l'esprit qui nous répond. Donc, cette nuit-là qui vient de passer, ben, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé lorsque je suis allé aux toilettes à 1h du matin et que je suis retourné au lit à 4h20. Il manque du temps, il manque 3h. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, j'ai été enlevé par mon futur. J'ai été kidnappé par mon futur. Je n'ai pas été kidnappé dans mon futur, j'ai été kidnappé par mon futur. Et par mon futur, c'est quoi? J'ai été kidnappé par ma propre conscience. Futur. Je raconte aussi que j'étais au Maroc à un moment donné. J'étais kidnappé au Maroc. À Séti Fagma, je crois que ça s'appelle. Par là-bas. Et je me suis retrouvé 2 jours après dans la montagne. J'ai aucun souvenir de ce qui se passait. Aucun. Rien du tout. Je me suis retrouvé. Ce qui était marrant, c'est que mes habits, donc j'étais juste en slip quand je me suis réveillé, qui étaient même à l'envers. Je me dis, bon, qui c'est qui m'a habillé? Et tous mes habits étaient pliés à côté de moi. Juste là, pliés comme ça. Bien, un beau tas, plié. Si on m'enlève, si on veut me faire du mal ou quelque chose, on ne va pas se prendre la peine de plier mes habits. Et, mais c'est pourquoi on a mis mon slip à l'envers? Il y a un problème. Donc j'ai compris, c'était des signes, parce que j'ai compris pourquoi aussi ces signes, ils m'ont montré ces signes. Ça veut dire, c'est une présence qui était intelligente qui a fait ça. C'est une intelligence qui m'a permis de m'habiller, de mettre mes habits à le plier, et qui m'a exprès mis mon slip en l'envers pour que je me rappelle, pour que je le vois. Donc, si on comprend maintenant cette histoire d'interpénétration du temps, parce que nous sommes en train de faire participer à l'expérience d'interpénétrer le temps. Ben, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc pour moi? J'ai été kidnappé par mon futur, c'est-à-dire par le temps. Et qu'est-ce qui m'a kidnappé dans ce temps? Je me suis kidnappé moi-même dans mon futur pour réagir quelque chose dans mon passé. Donc en réalité, je me suis kidnappé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelque chose m'a kidnappé dans le futur. Et qu'est-ce qui m'a kidnappé dans le futur? C'est mon esprit. Mon esprit, en fait, qui habitait un corps et qui, lui, il connaît la technologie du futur. Rappelez quand je parlais des deux personnages qui sont rentrés dans ma chambre un peu après que la Massoum m'ait visité. La Massoum m'ait visité. Ben, ces deux personnages, ils se sont retournés. C'était en fait ma mère et mon frangin, mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus du futur pour m'avertir. Mais ils ne l'ont pas dit derrière moi, verbalement. Ils n'ont rien dit du tout. Fini. Il n'y a personne qui parlait. La Massoum est venue dans ma chambre. Ils ne parlaient pas. Mais c'était des messages. Ils m'ont donné des messages. Je ne sais pas, on ne va pas dire subliminal. En fait, c'est-à-dire, ils m'ont donné l'intuition pour que je puisse comprendre. Mais mon frangin et ma mère, quand ils sont entrés dans ma chambre, ben, ils venaient d'un futur anthropique. Ça veut dire qu'il y a un futur qui était en train de décliner, de se terminer, en fait, qui est arrivé en fin de cycle. Donc, des êtres sur d'autres plans, lorsqu'ils remarquent dans le futur qu'il se passe quelque chose, qu'ils ne peuvent plus aller plus loin, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent dans le passé pour changer quelque chose. Comme à l'époque de l'Edrige. L'Edrige, où les marins sont sautés de l'Edrige pour ramener dans le passé, pour revenir dans le passé et arrêter le processus. Pareil, la Massoum, quand elle est rentrée dans ma chambre, elle venait, entre guillemets, du passé. Mais comme ils ont un cycle plus long, en fait, elle me visite aussi dans le futur. Le cycle humain, on va dire tout simplement, il va faire 100 ans à grandir. Mais une Massoum, elle peut vivre 350 000 années. C'est énorme par rapport à un cycle humain. Ça n'a rien à voir avec l'échelle humaine. Au niveau de l'atome, c'est la même chose. Nous n'avons aucune idée. Nous ne savons pas qu'au niveau de l'atome, les choses changent parce que le temps change. Le temps change. C'est un cycle. Il faut bien comprendre quelque chose. Si on voit le temps, la banane pourrir à cause du temps, qui c'est qui observe la banane pourrir à cause du temps? Ben c'est nous, c'est mes yeux. Donc ça veut dire que c'est une conscience qui observe la banane qui pourrit au cours du temps. En fait, c'est encore plus loin. Le temps, c'est quoi? C'est simplement la conscience de l'homme provoque crée le temps. Parce que nous ne savons pas qu'au niveau atomique, le temps n'existe pas. Et qu'au niveau hyperdimensionnel, c'est-à-dire au niveau de l'univers, tout le temps existe en même temps. Les temps existent en même temps. Il n'y a pas de différence. Vous voyez le ruban de Mobius, comment il se déploie. Il y a aussi autre chose que j'ai compris. Donc, c'est un monstrum qui venait dans ma chambre. Ben, de la même manière que j'ai été kidnappé par mon futur. C'est un Massoum, je croyais longtemps que c'était la Massoum de Sandrine. Sandrine est une Massoum, son essence est une Massoum. Cette essence de la Massoum, elle a créé des Nungal, en tout cas, que je suis aussi. En fait, ces Nungal, on les appelle les peuples ou la nation du troisième œil. La nation du troisième œil a été créée, entre guillemets, par un peuple qui a créé les Nungal pour que les Nungal puissent, à la fin du temps, se réveiller, réveiller les autres. C'est comme si j'avais de la mémoire de quelque chose. Donc, si c'est ma Massoum, c'est un Massoum arrivé dans ma chambre il y a quelques années, donc il y a déjà maintenant 21, 22 ans, je sais plus exactement, c'est 2003. 2004, ben, si c'est un monstre qui m'est venu, ça veut dire tout simplement que j'ai vu mon propre artefact. Ça veut dire que, un truc qui est important à comprendre, on reconnaît l'artefact, ça veut dire que c'est un artefact, c'est une image qui me représente. La monstre, c'était une femme, un féminin, un être féminin. Les Cassiopéens disent bien que le premier Christ est une femme. Était une femme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, qu'à la fin de ce cycle, le dernier Christ sera un homme. Vous voyez? Les deux. Le premier Christ, c'est une femme, et le dernier Christ est un homme. Après, à la fin de ce cycle de vie long, ben, les polarités s'inversent. Ça veut dire que le premier Christ est un homme, et le dernier Christ est une femme. Et on aura fait le tour. Du ruban de Mobius. On aura fait le tour. C'est juste comme ça. Et donc, c'est quoi un Christ? Un Christ, c'est quelqu'un qui a appris à emmagasiner, à comprendre l'univers avant de réfléchir. S'il comprend l'univers avant de réfléchir à ça, ben, c'est qu'il n'a pas besoin de réfléchir. Il comprend. Et comprendre, ça veut dire qu'on peut voir le futur. On peut à la fois voir le futur et à la fois voir le passé. Et si on peut voir à la fois le futur et voir à la fois le passé, c'est que tout simplement, c'est notre intuition. C'est notre intuition qui nous permet de modéliser le futur et le passé. C'est mon intuition qui a compris, mais je n'ai pas cherché à comprendre, puisque si on cherche à comprendre, on comprendra. Ça, je dis tout le monde dans notre groupe, on est à l'école. Si vous essayez d'arrêter de chercher à comprendre, vous comprendrez. Si vous essayez de chercher à comprendre, vous ne comprendrez jamais. Parce qu'en fait, comprendre, ça veut dire tout simplement l'inverse du processus. Donc, je mets encore une fois l'histoire de, juste pour finir cette histoire, Cathy. Vous vous rappelez Cathy que j'ai connue enfant, que j'ai connue quand j'étais bébé, parce qu'on dormait dans le même berceau. La Cathy, je l'ai retrouvée, je l'ai déjà dit récemment, je l'ai retrouvée à la fin du cycle de ma vie, mais je ne suis pas en fin de vie. J'ai retrouvé Cathy enfin, à la fin de ce cycle. Donc Cathy, c'est un féminin. Moi, je suis un masculin qui est au début de la vie, qui fait que Cathy, de l'autre côté, en fait, il se passait quelque chose en Cathy, qui fait qu'en réalité, Cathy et moi sommes connectés par le même esprit. Dans notre réalité, dans les religions, n'importe, je sais plus. En fait, on pourrait presque dire que c'est mon double. Si on va plus loin, ça veut dire que dans ma réalité actuelle, j'ai fait toute ma vie, j'ai trimé comme un malade dans la matière. J'ai mis toute ma force à trimer dans la matière. Et en fait, je pourrais presque dire, j'ai raté ma vie. Parce que je dis bien, je pourrais dire que j'ai raté la vie. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, qui c'est qui rate sa vie? C'est des gens qui ne cherchent pas, recherchent pas la connaissance. Je prends juste Cathy. Quand elle était enfant, ben elle a grandi, elle a fait l'école, lycée, des études, et est devenue pharmacienne. Elle était pharmacienne jusqu'à la fin de sa, jusqu'à maintenant, la fin de sa vie. Mais, si elle était restée pharmacienne jusqu'à la fin de sa vie, ça aurait été comme une banane. Une banane qui pourrit, en fait, qui disparaît dans l'autre monde. Mais comme nous étions connectés par l'esprit, la Cathy, elle pouvait faire toute sa vie restant pharmacienne. Donc Cathy, elle a, par son intelligence humaine, par son intellect humain, elle a pu faire ses études. Elle a réussi elle a réussi sa vie parce qu'elle avait fait des études. Elle a réussi sa vie. Mais en réalité, si je regarde moi, j'ai fait pas beaucoup d'études. J'ai été un cancre, quasiment un cancre à l'école. Je connaissais rien en maths, rien en physique, rien en chimie, pas grand chose. En français, bof, pas trop. En fait, je n'étais pas du tout intelligent. En fait, plus je suivais mon cursus d'école, au début, j'étais comme Cathy, j'étais parmi les premiers. Mais au fur et à mesure, j'étais le dernier. Donc, j'ai fait des études d'infirmier, voilà. Ben, même mes études d'infirmier, j'étais l'un des cancres de la classe. Mais j'ai quand même bien réussi à faire mon métier parce que je me passionnais. C'est pas parce que j'ai fait des études que ça me passionnait. C'est parce que j'ai été intuitif, parce que je savais très bien manipuler la visserie, toutes ces choses-là, intuitivement. J'avais pas besoin d'études pour faire ça. C'est pour ça que je n'étais pas du tout destiné à la médecine ou à la chimie, tout ça. J'étais juste destiné à la chirurgie c'est mécanique. Donc j'ai fait mon cursus mécanique. Mais en fait, le cursus mécanique de chirurgie, à un moment donné, j'ai compris que je voulais retrouver ma liberté. Et en fait, j'ai fait mon cursus d'infirmier libéral après à la maison. Et c'est là que j'ai découvert le poteau rose. Là, j'ai arrêté mon boulot d'infirmier. Donc, depuis que j'ai arrêté mon boulot d'infirmier, donc en 2007, j'ai tout perdu à cause du divorce, une compagnie. Donc j'ai surresté toute cette vie-là, j'ai dévoré ça. Donc je vivais avec 400 euros par mois. 400 euros par mois pendant depuis 2007. Ça ne veut pas dire que j'ai rien foutu. J'ai énormément donné beaucoup pour diffuser l'information. Maintenant arrive un moment donné. Ou même le RSA m'a été coupé, je n'ai plus d'argent aujourd'hui. ça ne veut pas dire que je pleure. Comme je dis au début du film, je ne pleure pas, mais je plains les gens qui ont trop d'argent, qui ont beaucoup d'argent, je les plains. Parce que ils n'ont pas compris. Donc, c'est-à-dire, je pourrais presque dire que je plains Cathy, parce qu'en tant que pharmacien, voilà, on ne peut pas dire qu'elle a raté sa vie. Elle a probablement mis un petit pacte de côté, probablement une bonne retraite, etc. Une bonne retraite. Peut-être. En fait, ce n'est pas le plus important de savoir. Le plus important, c'est de savoir que j'étais connecté à Cathy pour que, par son sommeil, parce qu'elle sommeillait dans l'astral, elle restait dans l'astral, ben moi, je puisse faire l'inverse, me réveiller dans l'astral. Et le fait que je me réveille dans l'astral et que je suis toujours connecté à Cathy, puisque je l'ai retrouvé actuellement, ben, nos deux esprits, ils peuvent fusionner, si on veut, et Cathy aussi, grâce au travail qu'on a fait ensemble, je pourrais presque dire, grâce au non-travail qu'elle a fait, ça m'a obligé de faire mon travail, obligé très fortement de faire mon travail. Mais Cathy aussi, elle est dans un monde SDS pour le moment, mais elle va changer de densité. Après, c'est à elle, à partir de la quatrième densité, de faire ce travail. On sera toujours encore liés, c'est tout. Et je serai toujours lié à d'autres personnes sur Terre que je connais. Je serai toujours lié à Sam, parce que c'est une amasome. Je serai lié à d'autres personnes du groupe. Bon, pour l'instant, je ne parle pas encore, mais c'est pas le sujet. Mais je suis beaucoup lié à certaines personnes du groupe de façon particulière. À cause de nos mémoires et à cause de mémoires universelles, pour dire. Voilà. Donc, est-ce que j'ai fait le tour du sujet? Je sais pas encore. En tout cas, peut-être pour le moment, parce que je commence à fatiguer, donc. Si, mais j'ai pas encore fini. Cette nuit, lorsque je suis venu des toilettes, j'avais très mal au thorax. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire, ça brûle à l'intérieur. Ça brûle jusqu'à la tête. Je dis souvent. En fait, ce sont les éruptions solaires qui font que on brûle de partout à l'intérieur. Et les éruptions solaires, qu'est-ce qu'ils font, ces éruptions solaires? Ils impactent le treillis magnétique, donc le treillis magnétique de la Terre, la protection magnétique de la Terre. Et quand on va voir ce qui se passe au fin fond de l'atome, les quarks, tout ça, qu'est-ce qui fait que les électrons tournent autour de l'atome? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les électrons vont arrêter de tourner autour de l'atome pour se réaligner? Lorsqu'ils se réalignent, ils se synchronisent. En fait, ils n'arrêtent pas de tourner, mais ils se synchronisent. Lorsqu'ils se synchronisent, ces électrons créent une onde. L'onde, la fameuse onde. Lorsqu'ils sont synchronisés, les électrons créent l'onde. Lorsqu'ils sont désynchronisés, c'est-à-dire en temps normal, lorsqu'ils sont désynchronisés, ces électrons créent des particules, sont des particules. Donc, onde ou particule, lorsque c'est des choses symbriques, c'est-à-dire que c'est là que se passe la transition. La transition, je reprends le ruban de Möbius, ça. À un moment donné, il se produit quelque chose qui fait que l'intérieur devient l'extérieur. Les mondes se renversent. Et là, j'avais essayé de le dessiner ce matin, de le modéliser. Voyez, là, j'ai dessiné un plus. Là, j'ai dessiné un neutre. Et là, j'ai dessiné des électrons négatifs. Quand on superpose, j'en ai fait deux, quand on superpose les électrons négatifs et les électrons positifs, qu'est-ce que ça donne? Ça marche même pas, mais en fait, voilà, ça donne ça. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Si on décale un petit peu. Ça donne quoi? Ça donne la croix gammée. Si on décale de l'autre sens. Ça donne la croix gammée à l'envers. Ça, on appelle ça une svadhisthana. En fait, c'est le symbole des initiés qui savaient utiliser la matière pour transformer le monde. Les nazis avaient cette connaissance. Les nandis sont les gens du Schwabenland. Schwabenland, c'est pôle sud. C'est l'intérieur de la Terre. Les nandis viennent de l'intérieur de la Terre. Ce sont des intraterrestres. Mais les nazis intraterrestres, ça veut pas dire que ce sont tous des nazis. Les intraterrestres, ce sont tout simplement des Aryens. Des Aryens, qu'ils soient sémites ou n'importe quel, ou je perds la mémoire. En fait, les Aryens, ce sont des sémites ou d'autres peuples, en fait. En réalité, les humains sont des Aryens. Lorsqu'ils viennent de l'intérieur de la Terre. Donc, lorsqu'ils sont guidés par l'intelligence de l'esprit du peuple de Meul. Le peuple du troisième Meul, ce sont ces peuples qui ont inspiré les Illuminati et compagnie, en fait, dont le symbole a été donné aux Illuminati. En fait, quelqu'un qui est illuminé, c'est un Illuminati. Mais les Illuminati dans notre monde, sont généralement vus, ben c'est toujours vu, comme genre du nouvel ordre mondial. Ce sont les mauvais Illuminati, ce sont les psychopathes Illuminati qui nous montrent comme ça, qui montrent les autres de cette manière-là. Le peuple du troisième œil, c'est simplement nous dans le futur qui nous donnons nos informations, qui projettent ces informations, par exemple, dans ma tête, pour que je comprenne. Lorsque je comprends, le peuple du troisième œil, si on revient dans le passé, et ce peuple du troisième œil existait déjà, c'était les géants. Les Néphilim. Effectivement, on sait que les Néphilim passent par une porte dimensionnelle pour arriver sur Terre. Mais ces Néphilim qui arrivent par une porte dimensionnelle sur Terre, ce sont les extraterrestres. Et il existe déjà des Néphilim incarnés sur Terre à travers du corps humain. En fait, ces Néphilim qui sont incarnés sur Terre à travers des corps humains ne sont pas forcément des nazis. Ils sont tout simplement des gens qui ont été illuminés, qui ont reçu l'illumination, ou je ne sais pas comment on dit, en fait, qui savent certaines choses. Et parce qu'ils le savent, ils peuvent le communiquer à d'autres. Pour l'instant, il ne faut pas craindre la venue des cyclopes et compagnie. De ces gens-là, de ces Aryens, il ne faut pas les craindre. Il y a effectivement des Aryens qui sont vraiment des vrais psychopathes qu'il faut fuir, et les autres, des Aryens qui savent. Ceux-là, en fait, ils viendront pas, ils sont déjà incarnés. Si vous voyez des extraterrestres dans le futur, sachez très bien que ces extraterrestres, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas besoin de venir sur Terre. Nous sommes déjà sur Terre. C'est juste une question de conscience. L'humain ordinaire n'a pas conscience qu'il est lui-même un extraterrestre. Parce qu'il est ordinaire. S'il savait qu'il était autre chose qu'un humain ordinaire, il saurait très bien qu'il est un extraterrestre. Parce que la conscience ne vient pas de la Terre. Elle vient de l'univers, du fin fond de l'univers. De l'autre côté du quark. De l'autre côté du quark. Il y a cette conscience, et la conscience est partout. Elle va du plus petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est toujours la conscience qui habite toute chose. Voilà, je crois que maintenant j'ai fini. Je vous dis à une prochaine fois.